Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Sur plusieurs sujets en même temps, et en même temps ne pas tomber dans le piège de la superficialité. Lorsqu'on commence quelque chose, on va au fond des choses.
Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Michel Lévy Provençal. Michel est entrepreneur, il a notamment fondé TEDx Paris, l'échappée volée, Brightness. C'est un connecteur expert qui dédie sa vie à l'innovation et à la transmission. En passant, il a aussi cofondé Rue 89. On parle de trouver sa voie et des décisions qu'il a dû prendre pour aujourd'hui vivre de sa passion. On parle de ne pas être dans les cases et de transformer ses faiblesses en force. Je lui demande comment faire pour ne pas être largué et il me détaille ses impressionnantes routines d'apprentissage. Enfin, j'essaye d'obtenir un cours particulier de prise de parole en public. Pensez à vous abonner sur Apple Podcasts, iTunes, n'importe quelle application, c'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute.
Bah très bien, on peut commencer.
Ouais.
Donc, je suis très content d'être avec Michel Lévy Provençal. Salut Michel.
Salut.
On est dans tes locaux de ta société Brightness. Ouais. Je vais faire un peu de présentation sur toi, comme je fais souvent au départ. Y a beaucoup de choses à dire. T'es né au Maroc.
Ouais, à Casablanca.
Ouais. T'es ingénieur de formation. Mmh. T'es passé par les Beaux-Arts. Mmh. Ensuite, t'as fait tout un tas de choses. Je sais que t'as commencé des projets entrepreneuriaux. Puis, il y a eu la bulle Internet qui est passée par là. Mmh. T'as cofondé Rue 89. Mmh. Ensuite, t'as travaillé à France 24. Ouais. Tu as ensuite monté TEDx Paris, qui est la licence française de la conférence TED, qui a été créée aux États-Unis dans les années 80.
Ouais.
C'est autour de cette conférence TEDx Paris que t'as créé cette société Brightness, mmh. qui est une société justement où tu vas donner des conseils aux speakers et où tu vas aussi aider, je crois, les grandes entreprises à se mettre à la page, en fait, du monde qui avance. Si ouais. j'ai bien compris.
Oui, on fait cela, effectivement.
Et à la suite de TEDx Paris et du succès, tu as aussi créé l'échappée volée, ouais. qui est donc un peu la version action de TEDx Paris, qui est un peu une sorte de think tank. Et là, tu dis un do tank pour l'échappée volée. Et d'ailleurs, il y a tout un tas de personnes que tu as eues à l'échappée volée qui sont passées sur Nouvelle École. De mémoire, juste Paul Duhan,
ouais.
Jean-Charles Samuelian. Mm-hmm. Donc voilà, il y a tout un tas de choses dont on peut parler, et surtout que ce qui frappe, je trouve, on va parler de toutes ces choses, mais ce qui me frappe quand je regarde ce que tu as fait, quand je regarde ton parcours et quand je lis ce que tu écris ou tes conférences, quand je regarde tes conférences, c'est il y a un grand optimisme chez toi. En tout cas, vis-à-vis du futur, t'as aussi écrit un livre, enfin en tout cas, tu as sorti un livre qui s'appelle, je crois, c'est Demain.
Territoire de tous les possibles.
Territoire de tous les possibles. Et donc, il y a un grand optimisme, et ça m'a vraiment frappé en lisant ces trucs-là. Je me posais cette question, est-ce qu'on est dans un pays, selon toi, qui est un pays pessimiste ou qui a peur du futur?
Déjà, tu as fait une présentation très complète, et dans un temps très court. Ça va m'éviter de la faire. Non, non, mais c'est ramener comme ça tout en un seul bloc, ça fait un peu beaucoup de choses et on a l'impression d'aller dans tous les sens. J'ai parfois aussi l'impression d'aller dans tous les sens, mais en réalité, je m'aperçois qu'il y a effectivement un point commun. Je sais pas si c'est l'optimisme, le point commun. Est-ce qu'on est dans un pays pessimiste? Je pense que on a quand même du mal à appréhender la perspective du changement. Moins maintenant depuis quelques années et particulièrement moins depuis ces 6 derniers mois. Je pense aussi qu'on a probablement plus de difficultés à se projeter dans le futur que certaines cultures et en particulier aux États-Unis. Je parle même pas de l'Asie de zones comme l'Inde ou l'Afrique où des bons ont été faits en quelques années seulement, des leapfrogs ont été faits en quelques années seulement. Je pense que c'est dû tout simplement au fait que on fait partie des vieux pays riches et du coup on est plus conservateur. Même par rapport aux États-Unis, les États-Unis est un pays assez récent finalement. L'histoire américaine est quand même une histoire très récente. Et du coup, oui, on est probablement un peu plus pessimiste que les Américains et que les Chinois, que les Indiens, que les Africains. Pour autant, je pense que notre culture, notre histoire est une vraie richesse et que peut-être qu'avec le temps et avec cette chance d'un certain nombre de changements qui s'opèrent en ce moment, moi, je suis assez stupéfait par l'impact de la dernière élection d'Emmanuel Macron.
C'est un impact que tu sens au quotidien ?
Oui, à plein d'égards, économiquement, l'état d'esprit, la façon dont les choses progressivement se débloquent. Alors, forcément, c'est pas simplement l'action des 6 derniers mois qui font que les choses ont changé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été installées, mises en œuvre sur le précédent quinquennat qui a fait bouger aussi les choses. Mais et d'une certaine manière, enfin moi je le ressens quand je vois ce qu'on a fait en mettant sur scène des intervenants à TEDx Paris ou à l'Échappée Volée, ces idées, cet optimisme, cette envie de faire bouger les choses, ces initiatives qui étaient portées deviennent mainstream. Je dis souvent, voilà, ça y est, TEDx Paris c'est devenu mainstream. Macron est le premier président TED. C'est le premier président qui s'exprime sur une scène comme pour donner un TED Talk. Il a d'une certaine manière, je pense qu'il a dû s'inspirer aussi de toute cette culture, de cette logique d'écosystème, de communauté. Il a cela dans son ADN. Et du coup, ce qu'on fait depuis quelques années maintenant, depuis 2009, ça y est, c'était d'avant-garde. Je parle de TEDx Paris. Hein. Ça commence à devenir mainstream. Ça commence à rentrer dans notre culture. Alors, beaucoup reste à faire, évidemment. Et c'est pour ça que je reviens juste sur ta question. Ce qui me caractérise, je pense pas que ce soit l'optimisme. Je pense que c'est la recherche permanente, à la fois de la nouveauté, c'est l'exploration, c'est l'identification des sujets, des initiatives émergentes, et c'est de faire connaître au plus grand nombre, donc la transmission, de ce qui mérite d'être connu. Voilà. Que ce soit au travers d'initiatives comme Josh Fire sur les objets connectés, que ce soit Rue 89 avec l'émergence d'un nouveau mode de journalisme, que ce soit TEDx Paris, que ce soit l'échappée volée, c'est un élément constitutif de chacun de ces projets.
Qu'est-ce qui fait que toi, tu n'es pas justement conservateur ou que tu n'es pas effrayé du futur, mais que tu es plutôt toujours en train d'aller chercher ce qui est nouveau, ce qui bouge et ce qui va finalement détruire ce qui existe actuellement?
Je sais pas si je suis pas un conservateur, enfin, je serai forcément un jour un conservateur, je sais pas si je, peut-être que pour certains je suis un conservateur, je suis.
Oui, mais dans ton parcours,
jeune,
on garde vraiment
parcours,
une.
Effectivement, oui. Ce qui, je pense que c'est cette envie de, en permanence de découvrir, ce qui arrive. Après.
Mais tu sais d'où ça te vient, ça?
Pas faire de la psychanalyse de comptoir, mais je pense que j'ai aussi grandi dans un environnement où de par les centres d'intérêt des personnes avec qui j'ai grandi, qui m'ont élevé, ont toujours été fascinés par la nouveauté, par l'innovation, par 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 l'émergence. Et du coup, oui, j'ai dû avoir ça très tôt. Mmh. Et je le conserve et je le cultive et j'essaie de le transmettre aussi. C'est une passion, c'est une vraie passion. Je dis souvent, en fait, j'ai la chance. Il y a peu de gens, je pense, qui ont cette chance-là. Vraiment, c'est une chance de vivre de ma passion. Du coup, quand je me lève le matin, j'ai pas l'impression de travailler.
Ça a toujours été le cas ?
Non. Non, ça a pas toujours été le cas. J'ai longtemps travaillé dans un bureau à la Défense, à faire des choses qui n'étaient pas forcément très marrantes.
C'était après tes études d'ingénieur ?
Ouais, j'ai fait des études d'ingénieur. Je suis allé travailler dans un cabinet de conseil ensuite. Mais aux premières heures de l'Internet, hein, c'était en 96, entre 96 et 2006, je veux dire. Où, bon, alors, évidemment, c'était les premières heures d'Internet, donc c'était passionnant, mais j'étais pas sur des projets super fun, quoi. Et donc en 2006, j'en ai eu un petit peu marre de ce monde-là. Et j'ai toujours eu une passion pour les médias, et c'est comme ça que j'avais des copains à Libération, c'est comme ça que j'ai initié l'aventure Rue 89 avec des anciens de Libé, en me disant, bah, je peux plus rester dans ce monde-là, il faut que je fasse quelque chose qui me plaît vraiment. Et à l'époque, créer un média, pour moi, c'était génial, quoi. Je trouvais ça, je bloguais.
Tu bloguais déjà ?
Ouais, je bloguais. En fait, mon premier blog date de 97, 98, ça s'appelait pas blog, quoi, ça s'appelait web server à l'époque, mais MLP web server.
Mais à ce moment-là, en fait, j'écrivais déjà. Un early adopter un peu de...
Oui, il y avait pas mal de monde, hein, de cette époque, enfin, fin des années 90, début des années 2000, des potes d'ailleurs, des gens qui sont restés des amis proches, Cyril de Lastéry, Emery Doliger, tous ces gens qui étaient des blogueurs, et puis très vite, en tout cas moi j'ai voulu aller un cran plus loin aussi dans ce monde-là, et chacun d'ailleurs à leur manière, ils l'ont fait, hein, certains sont devenus... pas des youtubeurs, mais on fait de la prod, vidéo, d'autres sont lancés aussi, travaillent déjà dans les médias, mais ont été encore un cran plus loin dans les médias. Moi, j'ai voulu expérimenter la création d'un média, et donc Rue 89 en a fait partie.
Qu'est-ce que t'es je parle de ça parce que c'est une problématique qui revient souvent dans Nouvelle École, et moi je discute souvent avec des gens qui me disent qu'ils sont dans une voie qui, c'est pas qu'ils aiment pas, mais c'est qu'ils sentent qu'ils sont pas pleinement épanouis, que c'est pas exactement ce qu'ils aimeraient faire, comme tu dis, ils ont pas la chance de vivre de leur passion. Et qu'est-ce qui a été le déclic pour toi au moment où tu t'es dit il faut que je fasse autre chose là, il faut que je sorte. Et comment quelle a été la première étape,
c'est,
quoi.
C'est le matin en se levant, quoi. C'est arriver. En fait, c'est une histoire assez drôle parce que j'étais dans une boîte de conseil. J'ai quitté cette boîte de conseil pour me retrouver dans une autre boîte de conseil qui était ici les Moulineaux. Et tous les matins, j'arrive au boulot et il s'avère que cette boîte avait des locaux juste en face des futurs locaux de France 24. Et donc, je voyais se construire, la chaîne n'avait pas été lancée, je voyais se construire France 24 sous mes yeux tous les matins en arrivant, à part que je n'allais pas sur le trottoir de gauche, j'allais sur le trottoir de droite. Et je n'arrivais plus à travailler, littéralement, et je me suis dit mais c'est pas possible, il faut que tu fasses quelque chose qui te plaise, quoi. Et donc j'avais pris des vacances pour Noël à New York. J'ai pris un billet d'avion pour aller passer une semaine ou 10 jours à New York, et il y avait un ami qui était là-bas, qui était journaliste qui couvrait les US pour Libération, Laurent Mauriac, et avec qui je prends un pot un soir, et qui je dis mais j'en peux plus, il faut que je me retrouve dans un média, je sais pas, Libé n'en bouge pas, j'en peux plus, en plus il y a plein de choses à faire, je pense qu'on c'est le début, l'époque de la transformation des médias par la révolution du net, et je dis mais il y a peut-être aussi le moyen de créer un nouveau type de média qui serait 100% internet, et là il me dit mais tu sais je vais quitter Libération avec quelques copains et on va créer un média aussi. Je dis ah bon, mais vous allez le faire comment? Bah on cherche une équipe. Je dis mais c'est banco, je suis avec vous, quoi, on y va. Et en fait j'ai commencé à travailler avec eux, j'étais le seul non journaliste qui avait une culture 100% internet. et qui avait en plus la capacité de réaliser techniquement la plateforme. Donc c'est comme ça qu'est né Rue 89. Donc j'ai quitté cette boîte. Je suis.
T'as demandé leur avis aux gens qui étaient autour de toi ou tu t'as pris la décision?
J'ai assez peu consulté. Pour moi c'était.
C'était une évidence quoi.
Ouais. Et donc j'y suis allé et voilà, et ça s'est pas super bien passé parce que j'étais le seul pas journaliste, on n'était pas forcément d'accord, la culture corporatiste qui fait que j'étais pas forcément accepté dans le groupe comme les autres,
quoi. Parce que t'étais pas journaliste?
Probablement parce que j'étais pas journaliste, parce que j'en voulais peut-être aussi plus, peut-être que j'étais un peu plus jeune et que je remuais un peu dans les brancards aussi, donc ça s'est pas super bien passé. Franchement, le projet s'est lancé. Rue 89 a eu le succès pendant 6 mois, 1 an qu'on lui connaît. Très très vite, moi je suis parti. En fait, hein, j'ai claqué la porte.
Oui, t'avais écrit un article de blog qui avait fait d'ailleurs un peu de le tour d'internet à ce moment-là.
Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que simultanément, quasiment. Un mois plus tard, France 24 m'a appelé pour me proposer un job. Donc, c'est fou.
Ironie de l'histoire.
Ouais, ironie de l'histoire, quoi. Et du coup, j'y suis allé.
Mais tout a commencé.
Je pense que France 24 ne m'aurait pas proposé si j'avais pas eu l'expérience Rue
89. Oui, voilà, c'est ça. En fait, tout a commencé par, est-ce qu'on peut dire que tout a commencé par le moment où t'as commencé à dire à des gens que tu voulais faire autre chose, en fait?
C'est possible, ouais. Mmh. C'est possible que ça se soit passé comme ça, mais. Franchement, c'est une construction a posteriori parce que quand tu le vis, tu vois, tu te poses pas la question, tu fonces, tu y vas. Et cette expérience Rue 89 et France 24, bon, c'est une expérience extraordinaire. France 24, c'est des années fantastiques. Je dormais très peu, je travaillais comme un dingue parce que j'adorais ça. J'y étais le week-end. Une chaîne 24/24, 7 jours sur 7. Donc
ça veut dire quoi, tu dormais très peu?
Ça veut dire que j'étais pleinement sur ces projets-là, j'étais pleinement investi aussi dans l'écosystème innovant. C'est l'époque de la cantine Silicon Sentier, c'est l'époque des barcamps, c'est l'époque qui précède Telix Paris aussi. Hein. Mm. Là, on est en 2007-2008.
C'est le début de l'émulation startup.
Ouais, ça commençait. J'avais déjà eu une expérience startup moi dans les années 2000, mais qui s'était pas super bien soldé comme beaucoup de monde. Mais
c'était quoi? Il y avait eu la crise et puis il y avait eu le 11 septembre, tout ça.
Oui. En fait, c'était avec des anciens de la boîte de conseil dans laquelle je travaillais. J'avais travaillé sur plusieurs projets qui touchaient Internet, mais qui utilisaient Internet pour faire, à l'époque, ça s'appelait pas comme ça, mais c'était de la disruption. En fait, on utilisait Internet pour remplacer les systèmes de retail par du e-commerce. J'ai fait de la banque en ligne, j'ai fait de la finance en ligne, j'ai fait des systèmes de paiement, de la dématérialisation de procédures pour le service public. Et avec des anciens de cette boîte, j'avais créé une bourse alternative. On avait créé une bourse alternative qui cotait les valeurs du CAC 40 entre 18h et 22h. Donc quand la bourse était fermée. Parce qu'à l'époque, il y a eu un boom. Mmh. À l'époque de Self-Trade, Consors, Scortal, tous ces brokers en ligne qui permettaient de démocratiser l'accès à la bourse. On revit d'ailleurs en ce moment quelque chose d'assez comparable avec les crypto-monnaies. C'est très drôle. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je parle de ça, c'était en 99. Mmh. Donc quasiment 20 ans plus tard, on retrouve... Des similitudes avec cette époque-là. Et puis 2001 est arrivé, le 11 septembre, évidemment la valorisation de la boîte s'est écroulée parce que il y a eu un crack et voilà, elle a été vendue en petits morceaux. Mais c'était une super expérience.
Il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu dis j'étais peut-être un peu moins accepté dans le milieu journalistique chez Rue 89. Est-ce que ce sentiment de pas être dans la bonne case, c'est quelque chose que comme t'en as visité beaucoup des cases, est-ce que c'est quelque chose que t'as ressenti ailleurs aussi?
Toujours être en dehors du sérail, pas dans la bonne case, toujours. Mais j'en ai fait presque une théorie, quoi. À tel point que là, par exemple, l'échappée volée, qui est un programme, tu l'as dit, hein, qui prolonge l'expérience TEDx Paris sur un temps plus long, où on expérimente, où on passe à l'action, on s'engage. Donc c'est un événement, c'est une communauté. C'est un lieu hors des cases. C'est un lieu très différent, c'est un événement très très différent de la plupart des événements sur le sujet de l'innovation dans l'écosystème innovant français, où on mélange les genres. On va avoir des artistes, on va avoir des évidemment des entrepreneurs, des scientifiques, des philosophes, des éthiciens, des designers. Ça, c'est une première étape. Et puis, moi, je suis convaincu, et avec l'équipe, on l'est aussi, que c'est à l'intersection de ces différentes compétences, ces différents mondes, qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Et donc, c'est toujours en dehors des cases. C'est toujours à la frontière. C'est toujours à la lisière qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Donc c'est pour ça que je dis, j'en ai presque fait une théorie, quoi.
Tu veux dire qu'avant tu le subissais et que maintenant c'est ton mode d'action presque, ou que tu as pu le subir à un moment?
Je pense, oui, d'une certaine manière, c'est il y a de ça. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est presque devenu, enfin c'est accepté, quoi. Aujourd'hui, les entrepreneurs, les innovateurs, ceux qui créent de nouvelles choses sont souvent des misfits. Ce sont des gens qui ne rentrent pas dans les cases, qui sont en dehors du système, et tant mieux. Et c'est là qu'il y a quelque chose de nouveau et d'intéressant qui se crée.
Ouais, mais c'est là aussi qu'il y a tout un prix psychologique à payer pour être hors justement du chemin.
Oui, c'est le cas plus en France qu'aux États-Unis, parce que c'est de moins en moins le cas encore une fois, mais on a du mal à être plusieurs choses à la fois, par exemple, en France. C'est louche. C'est soit très superficiel. Autrement dit, on survole les sujets parce qu'on ne peut pas être expert de plusieurs choses. Soit c'est faux. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas aux US.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? De cette vision des choses?
Moi, je pense qu'il faut être les deux à la fois. Il faut être à la fois sur plusieurs sujets en même temps, sujets qui nous passionnent, qui nous intéressent. Il faut se donner cette liberté-là, quitte à accumuler les casquettes, et en même temps ne pas tomber dans le piège de la superficialité. Lorsqu'on commence quelque chose, on va au fond des choses. Et ça, j'essaie de me l'appliquer aussi. Alors, c'est
très qu'il faut finir ce qu'on commence, par exemple.
Finir ce qu'on commence, et quand on aborde un sujet, essayer de le creuser le plus possible, jusqu'à la limite de sa compréhension ou de ses capacités, mais pas survoler les choses. En tout cas,
il y a déjà eu des fois où tu as eu le sentiment d'avoir survolé les choses plus dans le passé, où tu as fait trop de choses peut-être. Je pose cette question, c'est aussi pour moi. Hein. Moi, j'ai tendance à faire beaucoup de choses en même temps. En ce moment, peut-être à rétrécir, à en faire moins. Et donc, c'est toujours une problématique que j'ai, un peu une inquiétude que j'ai parfois. Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse qu'une seule chose très très bien, par exemple que ce podcast? Mais j'aime bien aussi écrire. Alors, j'ai envie aussi de devenir bon là-dedans, tu vois. Donc,
Je pense que c'est compliqué, surtout quand on entreprend, de faire énormément de choses et d'essayer de réussir toutes ces choses en même temps. Il faut un minimum de focus pour avoir de l'impact, pour être bon dans ce qu'on fait. Pour autant, je pense qu'on peut trouver un lien dans plusieurs passions qu'on peut mener en parallèle. Et je pense qu'elles peuvent s'alimenter, en fait. Moi, je sais que j'ai pas l'impression de faire beaucoup de choses en même temps. Et pourtant, j'ai la chance d'avoir un métier où je côtoie des mondes très très différents. J'ai déjeuné avec un des pionniers de la biotech ce midi. Je peux travailler sur des sujets d'IA, pas parce que j'en suis un expert, mais parce que j'ai la chance de côtoyer des gens qui travaillent sur ces sujets depuis des années et qui sont experts sur le sujet. On a la possibilité de rencontrer des pionniers sur les thèmes de des nanotech, de la blockchain. Alors ça, ce sont toutes les technologies qui émergent. Ensuite, les usages, les nouveaux modes d'organisation, tous ces sujets qui sont en fait au cœur de la transformation dans laquelle on vit sont mes sujets de prédilection. Alors c'est très difficile de dire voilà, on est expert de tous ces sujets. Je suis pas un expert de tous ces sujets. Pour autant, je m'intéresse à tous ces sujets et j'essaie d'être le plus exhaustif possible sur chacun de ces sujets et d'avancer avec un niveau d'expertise qui est à chaque fois le niveau maximum que je peux atteindre sur ces sujets-là. Donc, voilà, c'est je pense un point très important. J'ai réussi à mon avis à trouver un métier, un projet qui arrive à les relier tous, puisque organiser nos événements, animer une communauté, accompagner des entreprises.
Comment tu le définis ton métier d'ailleurs?
Moi je le définis en trois mots, hein, très simple, c'est explorer, découvrir et transmettre. C'est en gros c'est ça mon job. Et après, pourquoi faire? Pour aider des organisations ou des individus à être acteurs du monde qui vient.
Mmh.
Et à être des changemakers à l'heure où on est aujourd'hui, parce que ce changement doit s'opérer. Et si possible, à faire en sorte que ce changement soit pour le meilleur.
Mmh. Justement, c'est un sujet qui, c'est intéressant ce que tu dis. Je vais avoir 26 ans bientôt. Et j'ai déjà le sentiment, alors que j'ai quand même beaucoup cravaché dans l'univers tech, start-up ou innovation, j'ai déjà le sentiment que quand je pose ma tête sur un oreiller 5 minutes et que je la relève, j'ai raté beaucoup de choses et que je vais vite en fait être dépassé par beaucoup de choses qui se passent tellement ça va vite.
Et fear of missing out, hein, ça,
c'est... ouais, et je me dis comment faire pour ne pas être complètement décroché, complètement largué, parce que en fait il y a une sorte d'arrogance quand t'as 20 ans de face aux générations plus âgées, de se dire ils comprennent vraiment rien parce que nous on baigne dans les choses qui sortent. Mais je pense que très vite tu sors des choses qui sortent, puisque tu sors des écoles, tu sors des études, tu sors de tes groupes d'amis, et ça peut et finalement tu peux vite devenir cette génération un peu que t'as critiqué ou dont t'as dit qu'elle était un peu larguée plutôt.
Hmm. Non, mais c'est sûr que on vit dans un monde qui va de plus en plus vite. Du coup, forcément, soit tu déploies de plus en plus d'énergie pour faire de plus en plus de choses et être de plus en plus à la page sur les différentes choses que tu fais. À un moment donné, il y a une limite à ça.
Ouais, tu pourras jamais être...
Voilà. Soit tu essaies de trouver une sorte de martingale positive qui... te permet de toujours être en avance sur un certain nombre de sujets qui te passionnent tout en ayant un point de ralliement de ces différents sujets et qui a un projet à la clé. En tout cas, moi, c'est la stratégie que j'ai essayé d'adopter.
Parce que moi, quand je regarde ce que tu as fait, j'ai le sentiment que tu as trouvé la meilleure technique au monde pour être toujours avec les gens qui font les nouvelles choses et ne jamais finalement...
C'est la meilleure technique, mais c'est une technique, effectivement, moi, qui me va bien, parce que j'ai cette chance. C'est le bureau des bonnes nouvelles. Les gens tapent à ma porte, ils ont toujours des projets extraordinaires pour changer le monde. Bah, c'est génial comme métier. Donc oui, ça, c'est vrai que c'est une vraie chance que d'avoir... être en contact avec ces gens qui changent le monde. Moi, je change pas le monde. Honnêtement, je suis un passeur plus qu'un doueur. Même si je fais des choses en construisant des projets, mais je vais pas inventer un nouveau médicament qui va guérir le SIDA ou qui
non,
va
mais permettre tu vas de le faire connaître. Cancer,
mais je fais connaître ces gens-là. Après.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
D'abord, par rapport à... Il y a une chose très personnelle, hein, cette sensation que tu peux avoir de te dire, moi, par rapport à la génération qui est au-dessus, qu'est-ce que je peux apporter, ou en tout cas est-ce que je suis pas un peu largué parce qu'ils ont plus d'expérience, ou la génération qui est au-dessus a le même sentiment à l'égard de la génération qui arrive. C'est-à-dire que quand je vois des jeunes diplômés,
non, mais ce que je décrivais c'est plus un sentiment que la génération d'au-dessus est larguée. Quand tu grandis, mais très très vite te rendre compte qu'en fait toi aussi tu vas être largué en 5 minutes.
Ouais, mais tu peux avoir aussi le sentiment que la génération qui est au-dessus a beaucoup d'expérience, oui, du réseau, de la capacité en fait d'aller plus vite, d'avancer plus vite. Mais ce que je essaie de te dire, c'est que de la même façon, mais tu l'as décrit aussi, la génération qui est au-dessus voit l'énergie qui est déployée par la génération qui vient, qui a peut-être moins de responsabilités, donc plus de liberté. Et du coup, qui peut faire plus de choses, plus d'énergie, plus de capacité à réaliser. Du coup, être dans une situation de course aussi à l'égard de cette génération. Je pense que on est tous challengés en ce moment, mais à tous les étages, les organisations, les individus, et ça va être de plus en plus le cas. Il va y avoir des burn-out à l'échelle individuelle, des burn-out à l'échelle d'organisation, des burn-out à l'échelle de société. Il y a des burn-out à l'échelle de la planète qui existent, qu'on connaît, l'environnement en est un. Il va falloir qu'on trouve un équilibre entre notre capacité à dépenser de l'énergie pour faire des choses et essayer de rattraper les erreurs qu'on a réalisées, nous, ou que nos parents ont réalisées. Je pense que, encore une fois, la solution réside peut-être dans le fait de trouver un sens, de trouver un but. Trouver un sens, trouver un but, c'est trouver le
pourquoi connecting de sa vie.
Oui, mais le connecting the dots dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire rassembler les différents points de différentes activités pour qu'elles puissent se rassembler, que ça crée un cercle vertueux. Créer un sens, c'est aussi trouver une raison à ce que l'on fait, un but à ce que l'on fait. Moi, j'essaie à ma mesure de faire en sorte que chacune des actions que je mène, bah, ça serve un but. Et le but, il est assez simple, hein, c'est de faire connaître des gens qui méritent d'être connus et d'aider des gens qui méritent d'être aidés parce qu'ils œuvrent pour le bien commun. Et ils œuvrent comment ? En innovant. Et en fait, la martingale est assez claire, c'est que ces gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de visibilité, vont être aidés, vont être visibles parce que la communauté qui suit ce qu'on fait sur Télix Paris, sur l'échappée volée, les entreprises qui nous suivent, nos partenaires, etc., vont les aider, vont les faire connaître, vont travailler avec eux et du coup, vont en profiter aussi. C'est-à-dire que ces entreprises ont besoin de travailler avec ces acteurs du changement pour elles-mêmes se transformer. Et donc, c'est là que le cercle vertueux intervient. C'est-à-dire que mon job qui consiste à chercher, découvrir et transmettre sert à la fois des jeunes pousses, des signaux faibles qu'on ne connaît pas et qui méritent d'être connus et d'être aidés, et des organisations qui aujourd'hui ont le plus d'effet de levier sur notre société pour qu'elles bougent dans le bon sens, qu'elles puissent s'inspirer à la fois de l'énergie de ces jeunes pousses, des idées et des initiatives de ces jeunes pousses, travailler avec elles pour pouvoir aller dans le bon sens, aller plus vite et faire en sorte que les choses aillent mieux, tout simplement.
Mais si je suis un jeune entre 20 et 30 ans et que je vois ce changement du monde qui s'accélère et que je vois qu'il y a un risque que soit je prenne du retard, que je sois largué ou que j'arrive pas à trouver du sens justement, qu'est-ce que je fais en fait? C'est une question assez large, hein, mais quelles sont les premières choses que je peux commencer à faire justement pour pas être mis de côté par la grande roue du changement qui emporte tout.
Bon, il y a des gens qui ont la chance de découvrir leur vocation. Bon, là,
ouais, il y en a eu plein sur Nouvelle École, des gens qui étaient, c'est vrai qu'à 6 ans, ils savent ce qu'ils aiment faire et c'est réglé.
Moi, c'était pas mon cas. Franchement, j'avais pas de vocation. Puis, il y a des gens qui sont curieux. Je pense que la curiosité est une qualité qu'il faut cultiver. Moi, je passe en moyenne 3 à 5 heures par jour à lire, à me documenter, hein, pas que à lire des bouquins, mais à lire des journaux, lire mes flux, lire des bouquins, et faire en sorte d'être curieux et de rester ouvert sur tous les sujets du monde. Je pense que c'est la base pour pouvoir tout simplement rester au fait et donc pouvoir saisir aussi les opportunités. Ensuite, je pense qu'il faut beaucoup travailler. Je pense que le travail est clé dans toute cette affaire. Mais c'est facile quand on est passionné. On n'a pas l'impression de travailler quand on est passionné. Mais le travail est absolument clé. L'organisation est clé aussi. La volonté et les routines.
Les routines ?
Ouais.
Moi, c'est quoi tes routines, toi ?
Je suis très fanat des routines.
Ouais.
Bah, j'ai des routines. C'est-à-dire je
ça ressemble à quoi, par exemple, quand tu te lèves ?
Ouais, ça dépend des jours, mais en moyenne, 3 jours par semaine, je me lève vers 5h30. Parce que, en fait, je suis du matin. Donc, de 5h30 à 8h30, 9h, je bosse. J'ai une routine très perso, je fais un peu de méditation, ensuite je définis mes objectifs du jour.
Tous les jours tu définis tes objectifs du jour.
Je définis mes objectifs du jour. En fait, tous les 6 mois, je redéfinis ma mission. Quels sont les objectifs que je dois mener à court et moyen et long terme?
Ça ressemble à quoi, un objectif?
Oh, ça peut. Un des objectifs que je mène, par exemple, c'est depuis à peu près 3-4 mois, et c'est une des séquences, c'est de rendre autonome un certain nombre de projets que j'ai lancés, dont l'échappée volée.
Donc les déléguer.
Oui, faire en sorte que je puisse non pas sortir, mais que ça puisse fonctionner sans que je sois forcément tous les jours dessus ou même en permanence impliqué sur les décisions. Ça, c'est un objectif très simple, hein, qui est basique, mais il se décline en différentes actions et en différentes décisions. Et donc, le fait de relire chacun de ces objectifs tous les matins est une bonne manière de s'aligner, d'aligner ses décisions, ses choix, sa vie sur ces objectifs-là.
Alors, ça, tous les matins, tu vas te rappeler ton but long terme et court terme, c'est ça ?
Alors, j'ai des objectifs court terme, long terme et moyen terme.
Okay.
Alors, je veux pas tous les passer en revue, c'est très personnel, mais
c'est plus le process qui m'intéresse.
Voilà. Et puis tous les matins, effectivement, ça fait partie des choses que je me remets en tête. Je fixe, par exemple, tous les jours en moyenne 1, 2, voire 3 objectifs auxquels je dois contribuer. Et puis les actions, c'est un système de suivi d'action, mais comme beaucoup d'entre nous, une sorte de to-do list, mais qui est classé par rapport à ces objectifs-là. Je répartis mes priorités en fonction de ça.
Donc c'est classé par thème, en fait, en quelque sorte, c'est ça ?
Par grands objectifs, par goals.
Et est-ce que t'es dans tes grands objectifs long terme, tu peux avoir aussi des objectifs personnels dedans ou
Ah, il y a de tout. Il y a des objectifs personnels et professionnels, oui. Mm. Et puis derrière, je lis beaucoup le matin. J'écris un peu.
Tous les jours, t'écris ?
Non, pas tous les jours. En moyenne, 3 fois par semaine. Je me douche. J'amène une fois sur deux ma fille à l'école. Je vais bosser. Et puis, je m'arrête un peu plus tôt dans la journée, vers 10h30, 18h. Je fais un peu de sport. Et puis ensuite, comme je suis pas trop du soir, le soir, je me repose.
Il y a des choses que tu fais pour te reposer qui sont
pour me reposer à part le sport je regarde des séries sur Netflix et je mate des films mais ma séquence la plus productive c'est effectivement le matin
Et donc c'est ces routines qui sont organisées faut organiser ta vie tout le temps quoi parce que tout à l'heure tu disais 3 fois par semaine. J'ai l'impression que t'avais 2 modes un peu.
Non, mais parce que parfois, quand je sors le soir et que je tarde un peu, je me lève pas 5h30 du matin, quoi. un petit peu plus tard. Donc là, je garde quand même la même séquence, sauf que je passe moins de temps à travailler le matin, à écrire, par exemple. Je lis. J'ai systématiquement la même séquence, c'est-à-dire je passe mes objectifs en vue, je fais ma méditation, et ensuite je fais ma veille matinale. Ça, c'est le minimum. Et sinon, le matin, je peux travailler en plus et écrire en plus.
Donc la lecture, c'est très important quand tu le compresses jamais, en fait.
Je passe pas une matinée sans que je lise, oui. Ah, ça, c'est sûr. Sinon, je suis là pour le coup, j'ai aussi le FOMO, quoi. J'ai l'impression de rater quelque chose. Donc, j'ai ces 3 à 5 heures par jour de lecture qui sont clés.
C'est beaucoup 3 à 5 heures. Même moi, quand j'essaie d'en faire, je crois, 2, 2 et demi, J'ai l'impression de déjà y passer.
Ouais, mais c'est mon métier.
C'est une... ouais.
C'est-à-dire que mon job, c'est de trouver les tendances, de les voir émerger, de les creuser, de trouver des liens entre elles, et voilà. Donc c'est mon job. Si je fais pas ça, je fais pas mon job, quoi.
Qu'est-ce que t'as lu récemment que je dois absolument lire?
J'ai posté là un tweet sur les 10 bouquins.
Ah oui, j'ai vu ce tweet, ouais.
Ouais, j'ai lu une cinquantaine de bouquins cette année, en moyenne un par semaine, mais il y en a 10 qui m'ont paru absolument clés.
Il y avait, je crois, Thinking Fast and Slow.
Ouais, Thinking Fast and Slow. Il y avait Life, c'est le dernier bouquin que j'ai lu, Life 3.0, qui est un livre sur l'évolution de l'intelligence artificielle, la biotech, et puis l'avenir de l'humanité, qui est passionnant, de Max Tegmark. J'ai lu...
La guerre des intelligences, je crois que tu mentionnes aussi.
Oui, de Laurent Alexandre, bon, que beaucoup de monde a lu, là, ça y est, hein, tout le monde l'a lu, le bouquin de Laurent Alexandre. J'ai lu un livre extraordinaire qui m'a marqué, qui s'appelle... mathématiques existentielles. C'est un artiste mathématicien qui met l'existence en équation. Et pour ceux qui aiment un peu les maths, c'est fascinant. Parce qu'il arrive à démontrer, par exemple, que le comportement qu'on connaît tous, hein, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, il arrive à le démontrer mathématiquement. Il a créé une équation de l'amour.
Ah,
et en dérivant amoureuse. L'équation de l'amour, il tombe sur cette équation-là. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. C'est un des exemples. Il a plein d'équations comme ça qui régissent les lois de l'existence. Cet auteur est fantastique.
C'est juste pour l'exercice ou est-ce qu'on en tire des leçons de vie
Pour moi, ce bouquin permet d'économiser 15 ans d'analyse.
Okay.
Génial.
C'est important.
Il est vraiment génial, ce livre.
Je mettrai tous
il
les...
est très court, en plus.
Pour les gens qui écoutent, je mettrai tous les livres dans les références de l'épisode.
Il y a les 10 bouquins qui ont été... Je les ai postés sur mon compte Twitter avant-hier, je crois.
Donc, tu disais beaucoup de curiosité et beaucoup de travail.
Beaucoup de travail, beaucoup de curiosité, des routines. Ouais.
Mais le bon focus aussi. Ouais.
Un but.
Parce qu'on peut travailler sur les mauvaises choses, en fait.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que faire le point tous les 6 mois sur sa mission, c'est clé. Et puis, bon, et en s'apercevant, tu fais ça depuis des années. En plus, je conserve toutes les archives, mais depuis des années, tu t'aperçois que t'as peu d'angles de modification. T'as des choses qui évoluent à la marge, mais je saurais pas résumer en une phrase la mission globale, mais tu retrouves à peu près les mêmes objectifs. Ils évoluent simplement, mais ils sont toujours dans le même sens.
Il y a un dénominateur commun.
Oui, c'est en fait le dénominateur commun. Je t'ai dit tout à l'heure, c'est explorer, découvrir et transmettre. Mmh. Ça, c'est une évidence.
Est-ce que tu penses que c'est la multiplication des expériences qui t'a permis justement de trouver ce que t'as pu appeler tout à l'heure ta passion ou qui peut être ton but global, ce genre de choses?
Oui, oui. Ça, c'est sûr que sans expérience, tu t'aperçois pas. De ce qui te plaît et de ce qui te plaît pas. Je sais pas si t'as vu la dernière saison de Black Mirror.
Pas encore. Je garde ça pour. En ce moment, je m'interdis un peu les séries parce que je les déguste.
Je peux pas spoiler, mais il y a un des épisodes qui parle de l'expérience. Bon, je spoil pas. Mais c'est un peu ça, quoi. Mais dans un autre domaine, en l'occurrence, dans les relations amoureuses. Mais il faut des expériences, oui. Sinon, tu ne te connais pas et tu sais pas vers où tu dois aller.
Il y a quelque chose autour duquel tout ce que tu fais depuis quelques années est vraiment axé, c'est la prise de parole en public.
Ouais.
Et le fait d'aider des gens à communiquer et à communiquer leurs idées de manière impactante, de manière concise, de manière claire. Est-ce que ça, c'est un élément indispensable pour tout être humain d'une vingtaine d'années ou en tout cas qui commence à se lancer dans la vie?
C'est une compétence clé aujourd'hui. Ne pas savoir s'exprimer en public et transmettre ses idées, c'est un vrai frein pour quelqu'un qui soit à vocation d'être un leader dans un domaine donné, entrepreneur, chef d'équipe, chacun à son échelle. Hein. Et donc, oui, c'est une compétence à acquérir. Tout le monde peut le faire. On croyait longtemps que c'était destiné et dédié uniquement à des gens qui avaient un don. C'est complètement faux.
Mais comme beaucoup de choses, non. J'ai le sentiment que je discute souvent avec des gens qui me disent qu'ils peuvent pas faire quelque chose parce qu'ils sont pas assez comme ça. Je discutais hier avec une personne qui me disait je suis pas bonne là-dedans parce que je suis pas assez discipliné, organisé. Et moi, j'avais le sentiment que la discipline ou l'organisation, ça se travaille en fait, un peu comme oui. tout quoi. C'est un processus qui prend du temps.
Oui.
Donc, c'est sûr que si t'es très désorganisé demain, tu vas pas être super organisé, mais peut-être que dans 5 ans, tu seras extrêmement organisé si t'as mis les choses en place.
Oui.
Et donc, est-ce que c'est finalement pas pareil pour la prise de parole et pour toutes les autres?
Complètement. Il y a une méthodologie, il y en a plusieurs d'ailleurs, qui permet de comprendre que pour délivrer un discours en public, il faut construire une trame, il faut savoir ce qu'on va délivrer comme message, il faut avoir une introduction claire qui attire l'attention du public, il faut avoir une conclusion qui soit courte, impactante, qu'on connaît, il faut répéter. Ne pas répéter, c'est une erreur fondamentale.
Oui, j'ai vu dans une de tes interventions à TEDx Alsace, je crois, tu disais oui. que tu avais répété déjà toute la journée et que tu allais re-répéter toute la journée du lendemain. Et que là, c'était le dîner, je crois, vers 21h ou 22h, et tu allais répéter après le dîner. Et que si on lit la biographie de Steve Jobs, tu te rends compte qu'il répétait pendant des semaines et des semaines et des semaines, que tout était parfait, quoi, au millimètre.
Bah, Steve Jobs a été une vraie inspiration pour toute une génération de speakers, hein. Ça a été l'un des premiers à le faire. Évidemment, c'était un maniaque en plein de domaines, et en l'occurrence sur ces talks, il était complètement fou avec les détails, non seulement avec lui-même, mais aussi avec l'entourage et avec la façon dont la mise en scène était construite. Et ça, c'est d'abord, c'est aussi une envie de bien faire, une envie de créer une expérience qui touche, qui marque, qui impacte. Et ça, c'est ce qu'on fait depuis maintenant presque 10 ans avec TEDx Paris aussi, hein. Tous nos intervenants sont coachés, préparés pour qu'ils aient le plus d'impact possible. C'est d'ailleurs ce qui les attire à nous, c'est qu'on les aide à construire aussi ces talks-là et à leur donner cette tribune-là, que ce soit TEDx ou à l'échappée d'ailleurs.
Alors comment vous faites? Imaginons que demain, que je veuille faire un talk.
Ouais.
Déjà, peut-être que je dois faire des talks, je sais pas. Est-ce que je dois faire des talks?
En Est-ce tant que personne quelque chose qui a à dire, qui te semble être original?
Alors moi, j'ai des choses à dire que je pense être assez original, mais je vais pas forcément oser le faire.
Pourquoi?
Je pense qu'il y a un côté.
Tu te sens pas crédible à le dire?
Ouais, je pense que je me sens pas toujours crédible à le dire, tu vois.
Est-ce que c'est quelque chose qui t'est? Est-ce que c'est une expérience? Est-ce que tu peux le rapporter à une expérience qui t'est propre, que personne d'autre n'a vécu?
Ouais, c'est ce que j'ai tendance d'ailleurs à me dire quand j'écris ou quand je publie ou quand je parle. C'est toujours d'essayer de raconter mon histoire que l'histoire est un peu originale du coup.
C'est ça.
Parce que tout a déjà été dit en fait.
Oui. Ouais. Non, mais c'est dans la rhétorique antique, j'allais dire, il y a ces deux composantes, l'éthos et le pathos, c'est-à-dire que la crédibilité vient du fait que tu incarnes un sujet. L'incarnation du sujet, elle peut venir tout simplement du fait que tu as été le seul à vivre cette expérience-là. C'est la subjectivité, finalement. Et puis le pathos, c'est le moyen de toucher les âmes et les cœurs en face. C'est-à-dire, c'est une méthode qui passe par le storytelling, qui passe par la surprise, qui passe par le rire, qui passe par les larmes, parfois.
D'ailleurs, tu commences toujours une de tes conférences par « je vais vous raconter une petite histoire ».
Oui. Alors, c'est pas toujours le cas, mais
enfin,
l'histoire est un très bon moyen de toucher ton audience. Pour une raison, d'ailleurs, il y a des études en sciences cognitives qui le prouvent. Il est beaucoup plus difficile de faire appel au néocortex, autrement dit à la partie du cerveau qui analyse, qui compute, que de faire appel à la zone qui analyse les émotions, qui gère les émotions.
C'est le limbique, chose comme ça.
C'est le limbique, exactement. Et puis il y a le reptilien, mais qui en charge les réflexes, en gros. Donc le limbique qui en charge les émotions est beaucoup plus facilement atteignable que le néocortex. Autrement dit, il demande moins d'énergie que le néocortex. Donc notre cerveau est flemmard. Si tu veux le toucher d'abord, tu vas pas toucher le néocortex, tu vas toucher le limbique. C'est la raison pour laquelle c'est plus simple d'attirer l'attention quand tu racontes une histoire, quand tu fais une blague ou quand tu surprends quelqu'un. La meilleure façon d'attirer l'attention, c'est toucher au reptilien, c'est de faire peur. Tu vois, l'amygdale, elle réagit très très vite quand t'as peur. D'ailleurs, Laurent Alexandre fait très bien ça dans un de ses, c'est le premier talk qu'il a donné à TEDx Paris. Il démarre son talk en disant, je suis venu vous parler du tabou ultime, votre mort. Quand allez-vous mourir? La salle est tétanisée. Il a l'écoute de la salle. Parce que il touche à une des zones les plus primitives du cerveau et il fait appel à la peur. C'est une des méthodes. C'est la méthode la plus radicale. Ça m'étonne pas de Laurent Alexandre.
Alors, qu'est-ce que vous dites, justement? Ok, mettons que demain, parce qu'il faudrait que je prépare un peu plus longtemps. Mettons que dans un mois, je fasse un talk.
Ouais.
Qu'est-ce que tu me dirais? Quelles sont les choses qu'on peut, qui immédiatement sont des grosses erreurs que tout le monde fait quand il commence à parler?
Oh, bah, déjà, c'est de savoir quel est le message. Qu'est-ce que tu veux transmettre comme message? T'as un message. Quelle est l'idée que tu veux transmettre?
Je dois pouvoir la résumer en une phrase, quoi.
Ouais. Et c'est souvent ta phrase de conclusion. En tout cas, c'est une phrase qu'on doit être capable de noter, tweeter, mettre en titre de ta vidéo. Et ça, si tu ne trouves pas le message, c'est que tu n'as pas forcément quelque chose à raconter. C'est pas grave, tu vois. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui s'écoutent parler, tu vois, mais qui n'ont pas grand-chose à dire. On en a plein, hein, qui viennent nous voir en nous disant « je veux faire un talk ». L'idée, c'est quand même d'avoir un message. Si tu n'as pas de message, c'est pas trop la peine de prendre le temps de préparer ton talk. Une fois que tu as ton message, pour transmettre ce message, il faut passer par différentes étapes. Et parmi ces étapes, la toute première, c'est d'attirer l'attention de ton public. Quand tu montes sur une scène, d'abord tu es flippé. Tout le monde est flippé quand il monte sur une scène. Ça fait 10 ans que je fais ça. Je le suis de moins en moins, mais je sens toujours une pointe de stress, de trac quand je monte sur scène, et c'est normal. Donc la première chose à faire, c'est de connaître son introduction, sa phrase d'introduction. D'abord pour pouvoir être à l'aise sur les 15-20 premières secondes, et ensuite pour pouvoir attirer l'attention du public. Parce que le public décroche, et de plus en plus. Donc tu as 20 secondes pour attirer l'attention.
Ouais, parce que ouais, maintenant ils ont leur téléphone, ce genre de...
Oui. Donc il te faut une accroche forte. Je citais Laurent.
C'est un peu comme du stand-up, en fait.
Son accroche à Laurent sur l'intro. Il y en a plein d'autres. Hein. Alain Bensoussan dit on va faire un voyage ensemble dans le monde des robots en milieu humain. De quoi il nous parle? Tout de suite après, il nous explique que c'est ici et maintenant que ça se passe. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les gens écoutent. C'est surprenant. Et en même temps, on va comprendre pourquoi. Ensuite, une fois qu'on a capté l'attention du public, 20 secondes, on les amène progressivement vers le message. Et les amener progressivement vers le message, c'est pas leur expliquer des choses compliquées, c'est leur raconter une histoire. Raconter une histoire, c'est les balader comme on visite un monument, un pays. On leur raconte un conte. Voilà, c'est... Et puis, on construit progressivement son histoire pour amener au message.
Le message de la fin.
Ouais.
Donc le plus important, c'est d'avoir une bonne histoire, en fait.
Le plus important, non, c'est d'avoir un message.
Oui, ok.
Et puis ensuite, le moyen de transmettre le message, c'est d'avoir une bonne histoire.
Non, mais je voulais dire pour garder l'attention des gens, quoi.
Oui.
Au fur et à mesure.
Il y a plein de manières. La surprise, l'interaction avec le public, poser une question au public, le rire marche très bien. Tout ce qui touche aux zones les plus basses du cerveau, en fait. La peur, le rire, les larmes.
C'est un truc que t'aimes bien faire, toi?
Quoi donc?
Faire ces conférences. Être le speaker plutôt que d'organiser les...
Je préfère chercher, travailler avec mes intervenants et les mettre sur scène que de parler sur scène, de délivrer des talks. Ça m'arrive de le faire, j'aime bien ça. Mais je préfère de loin construire des talks et construire des programmes autour des sujets émergents. C'est plus ce qui me botte, moi.
Parfois, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète, c'est avec le fait de délivrer un message. C'est que plus je grandis, plus j'apprends, plus je lis, plus je rencontre des gens, et plus je me rends compte d'à quel point je ne comprends rien à ce qui se passe, et je ne sais rien, en fait. Toute proportion gardée, quoi. Et donc, délivrer un message, donner une opinion tranchée, c'est dire, je pense qu'il faut faire ça, faites ceci, ou alors le monde va devenir comme ça, ou toi, quand tu parles, souvent tu parles du futur et tu dis, en 2050, il y a de fortes chances que ce soit comme ça. donc vous devriez faire ça pour vous préparer. Est-ce que parfois t'as pas peur de te tromper complètement et de te dire dans 10 ans, oh là là, qu'est-ce que j'ai raconté? Ou qu'on vienne te dire, qu'est-ce que tu racontais?
Non, mais ce que tu viens de dire là, cette sensation d'avancer en sachant de plus en plus et en ayant en même temps l'impression d'en savoir de moins en moins, c'est le propre de la science d'ailleurs. Plus on découvre, plus on s'aperçoit de notre ignorance aussi. Hein. Et ça, en fait, ce qui est génial, c'est que c'est le mythe de Sisyphe. On finit par tomber amoureux du processus. Il faut tomber amoureux du processus. Sinon, tu deviens un vieux con bouffi pensant que tu sais tout et voilà quoi, ça a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de garder en permanence ce doute et cette curiosité, cette soif d'apprendre et de découvrir. Et plus tu apprends, plus tu t'aperçois qu'il y a des champs inexplorés qui restent à découvrir et tu continues. Voilà. Et ça, j'espère que ça ne s'arrêtera pas.
Mais il faut quand même avoir la confiance nécessaire pour arriver à affirmer des choses.
Non, la question que tu poses, si c'est ça, c'est de dire, bah finalement, comment est-ce que tu résous l'équation qui consiste à avancer, en savoir de plus en plus, et en même temps s'apercevoir à quel point on est loin d'être un expert, et donc quelle légitimité j'ai moi à porter un discours sur le sujet. Bon, bah ça c'est le classique syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que t'arrives sur une scène typiquement où tu t'exprimes sur un sujet, tu te dis mais quelle légitimité j'ai moi à parler quoi, tu vois. Je pense que le syndrome de l'imposteur on l'a tous eu et on l'a probablement aussi sur un certain nombre de sujets encore qui sont des sujets parfois un peu complexes et il est bon le syndrome de l'imposteur. Ça évite d'être un vieux con bouffi quoi. Mais il faut savoir le dépasser aussi un peu. Donc en fait peut-être que la posture c'est une posture d'ouverture, de curiosité encore une fois et de capacité de recul sur soi et de doute. Voilà. Mais ça ne veut pas dire non plus que on n'a rien à apporter au débat. De toute façon, on est tous des passeurs hein. On n'invente rien. On ne fait que processer des choses qui existent. Après, on met notre sauce à nous. Des fois, elle est meilleure que d'autres. Des fois, non. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte de bien faire son boulot. Moi, je pense que c'est ça le rôle de chacun d'entre nous.
Bien faire son boulot.
Ouais. Bien faire son job. Chacun. Son job, c'est pas forcément son travail. C'est sa mission, quoi.
Alors justement, est-ce qu'il y a enfin, pas justement, ce n'est pas directement lié. Tu parlais tout à l'heure de tes routines, de tes habitudes, même de ta progression. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais réussi à gommer et sur lequel t'as un peu abandonné, quoi? Tu te dis finalement, ça fait partie de moi, un défaut que tu...
Ouais, je pense le sport, là. C'est cool. Non, mais je fais pas mal de sport. Je fais au moins 4 séances par semaine, 4, des fois 5. Je suis pas un sportif, non, c'est pas mon truc. Mais je cours, j'essaie de courir, j'essaie de faire un peu de sport, mais... Je me maintiens, comme on dit. Ouais, non, ça. Non, après, bien sûr, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Évidemment. J'aurais tellement aimé pouvoir avoir plus de capacités d'apprentissage, de compréhension plus rapide des phénomènes, des choses que je lis. Des fois, je comprends pas des trucs. Évidemment, c'est évident. Et plus j'avance, ça m'arrive très très souvent de vouloir aller vraiment profond sur des sujets, d'acheter un bouquin, de rien comprendre, quoi, et de pester parce que j'ai pas assez suivi mes cours de maths ou mes cours de philo ou tu vois, c'est j'aurais aimé faire beaucoup plus d'études que je n'en ai fait. Je suis stupéfait par cette jeune génération. Bon, c'est vrai que je rencontre beaucoup de personnalités qui ont ce genre de profil, mais qui font Harvard, Sciences Po, Berkeley, l'ENS. Je suis halluciné par cette génération qui est slasher et en même temps avec un parcours académique, mais que j'aurais pas pu faire une seule des écoles qu'ils ont réalisées, mais eux les accumulent. Il y a plein d'exemples comme ça. Hein. De jeunes hein, qui font des études à rallonge. Ouais, peut-être faire plus d'études. Je pense qu'il faut, il faut, euh, faut pas lésiner sur... Enfin, c'est un truc de vieux con, encore une fois, de dire ça. Faut pas lésiner sur les études. C'est important, quoi. C'est important de d'avoir une bonne... d'avoir un bon background académique. Ou alors, de bosser toute sa vie pour le rattraper.
Eh ben, merci beaucoup, Michel Lévy-Provençal, d'être venu sur Nouvelle École.
Merci, merci à toi, Antoine.
Normalement, je finis en disant quel conseil tu donnerais à une version plus jeune de toi, mais je crois que ta réponse de d'avant et,
ouais,
englobe un peu ça, quoi.
Ouais, ouais, je pense.
Donc, merci d'être venu sur Nouvelle École. Voilà.
Merci. Salut.
Merci.
Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École. C'est la première étape. Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence. Ça se passe dans la section avis de iTunes ou de l'application podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast. Merci à tous. Nouvelle École, c'est tous les lundis, sans faute, à 17h. À la semaine prochaine.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about...
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.